Les rencontres de Marie-Claude.
Edith Vasquez, je suis rentrée à l'hôpital de Malévaux le mois d'octobre 75 pour suivre la formation d'infirmière en psychiatrie. Tout à fait par hasard, car j'étais en Allemagne et je voulais faire jardinière d'enfants. Et ça devait coûter énormément d'argent pour mes parents et je me suis dit non, il faut que je sois autonome. Et j'ai regardé un peu et il y avait encore la possibilité de s'inscrire à l'école. Alors j'ai passé des examens, un entretien avec le docteur Rebellé, un entretien psychologique et puis surtout le carnet de notes à l'époque. Et j'étais acceptée, donc j'ai débuté octobre 72 jusqu'en 75.
Et vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 19 ans. Et mon premier stage que j'ai fait dans les unités, après 3 mois de cours théoriques, m'avait beaucoup impressionnée. Et je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Je suis rentrée dans une unité d'admission femme et je suis arrivée à 7 heures le matin. À cette époque, il y avait les nonnes qui travaillaient et une nonne était responsable. Et j'ai été confrontée pour la première fois à la mort. Alors ça m'avait beaucoup marquée. Je me rappelle que la sœur qui était responsable de l'unité m'avait dit « Écoutez, maintenant, vous levez les patients et après, on va déjeuner. » Et j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit. Pour la première fois de ma vie, j'avais vu un mort. Et après, elle me dit « Écoutez, vous êtes élève, vous allez devoir affronter la mort, vous venez avec moi. » Et je suis allée dans la chambre où la personne était décédée et j'étais mais paralysée. Elle me disait « Mais il faut m'aider à me faire la toilette mortuaire. » J'ai dit « Bon, d'accord. » Mais j'étais vraiment paralysée. Après ça, c'est une chose qui m'avait énormément marquée. Elle a dit « Bon, maintenant, on réunit tout le personnel. On va manger un gâteau parce qu'elle est morte. Maintenant, elle est dans le ciel et la vie continue. Oh, » ah, c'était très, très dur pour moi à cette époque-là. Et c'est des choses qui m'ont marquée, qui par la suite de ma vie professionnelle, j'ai gardé pour pouvoir améliorer justement les soins et surtout ce que chaque soignant vivait dans les unités. Parce que ça m'avait vraiment marquée. Après ma formation, on m'a mise dans l'unité du Muguet, qui était l'unité première classe. À l'époque, cette première classe, il y avait beaucoup de personnes étrangères. Il y avait des personnes qui étaient dans l'aristocratie, des comtes, des ducs. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas, parce que j'avais un rôle de gouvernante. Lever les patients, que s'ils voulaient bien, leur donner le thé, on me sonnait pour aller changer des fleurs. Enfin, je ne me plaisais pas. Alors, j'en ai parlé à mes supérieurs. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas fait infirmière pour faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de changer? Et ils m'ont entendu et ils m'ont transférée dans l'unité de la personne âgée. L'unité qui, à l'époque, était un lieu de vie parce qu'il n'y avait pas les EMS. En 75-80, il y avait très, très, très peu d'EMS en Valais. Et là, j'ai fait 7 ans. Où vraiment j'ai eu énormément de plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec la personne âgée. Et ça a marqué un peu ma carrière professionnelle. C'est vrai qu'à cette époque, autant la personne âgée que les autres unités, c'était des lieux de vie. Il y avait 400 lits qui est descendu par la suite à 120, 130 lits. Donc, il y a eu toute cette réorganisation de Malévaux qui est passé d'un lieu de vie à un lieu de crise. Et surtout, une prise en soins qui était groupale à une prise en soins qui était beaucoup plus individuelle. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'institution. Par la suite, j'ai eu le plaisir de vivre la construction de la psychogériatrie. On a tout réorganisé, le bâtiment du Rocher, pour en faire un bâtiment neuf pour la personne âgée. Parce qu'à l'époque où je travaillais avec la personne âgée, les dortoirs étaient de 10 personnes. C'était compliqué pour l'intimité. Et quand il y a eu la construction, et j'ai assisté à l'inauguration, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir voir l'évolution de cette architecture pour la personne âgée qui était toujours un peu le parent pauvre de l'institution.
Vous avez quel âge quand vous rejoignez cette unité pour les personnes âgées ?
Ben, je devais avoir 19 et 3, 22, 23 ans. Je pense que de 23 à 30 ans, j'ai travaillé avec la personne âgée. 23 ans à 30 ans.
Et vous l'avez déjà un peu expliqué, mais comment se différencie effectivement l'approche avec une personne âgée de l'approche avec une personne moins âgée et peut-être une personne, effectivement, comme vous disiez, personne VIP du Muguet? Est-ce que ces personnes âgées, elles étaient là à vie? Parce que c'est aussi, effectivement, la transformation de Malévo, oui, c'est ça.
Voilà, jusqu'à la mort, puisqu'il n'y avait pas les EMS, donc c'était surtout un confort, je dirais, corporel, un confort aussi spirituel hein, pour les personnes âgées, parce que la plupart étaient démentifiées. Donc, c'était surtout avoir un confort humain, qui ne souffre pas, qui n'est pas froid, leur donner à manger, les doucher, les baigner. C'était surtout ça à l'époque. Alors, la différence entre la personne âgé ou une autre personne, pour moi, ça dépend tout quels sont ses besoins. Et l'infirmier doit, en regard de ça, y répondre par rapport à ses besoins. On faisait une prise en charge groupale, c'était tout le monde debout à telle heure, tout le monde douché à telle heure, tout le monde à la messe à telle heure, tout le monde déjeunait à telle heure, et on a passé à une prise en charge individuelle. Et là, on a commencé à faire des processus de soins où chaque personne, malgré qu'il y avait le diagnostic qui pouvait être identique, elle avait un passé et une vie qui était complètement différente. Le soignant devait prendre en soin d'une manière unique la personne. Elle était unique. Et selon la pathologie, mais pas nécessairement de personnes maniaques ou de personnes psychotiques avaient la même prise en charge. Et ça, ça a été un grand changement dans la psychiatrie. De ce passage groupal à un passage de prise en soin unique.
C'est ce qui différencie aussi Malévo. Alors peut-être dans ce côté précurseur par rapport aux autres hôpitaux psychiatriques?
Non, la différence, Malévo était un hôpital ouvert. J'ai eu la chance de connaître le docteur Rebellé, qui était le pionnier, après le docteur Repon, le pionnier de cet hôpital ouvert. Et je me rappelle que le docteur Rebellé, parfois, il descendait les unités sans les clés. Et il ne fallait pas qu'il trouve une porte fermée. La différence de Malévo, c'était cet hôpital ouvert. Toutes les portes ouvertes. Les dernières portes ouvertes ont été celles de la personne âgée parce que nous n'avions pas les moyens techniques à l'époque pour mettre en place des alarmes s'ils dépassaient une porte et tout ça, puis qu'il y avait danger qu'elle se perdait. Mais sinon, les autres unités d'admission, elles étaient toutes ouvertes. C'est pour ça qu'au fil des années, nous avons mis en place un protocole avec la police parce que souvent, quand un patient était hospitalisé, dans sa période de crise, il fuguait. Je me rappelle qu'une fois, un policier m'a dit « Mais écoutez, on a mis 2 heures à ce patient puisse être amené chez vous à l'hôpital et il n'y a pas 2 heures qu'il est chez vous, il est déjà en ville. » Et pour cela, nous avions mis en place un protocole et nous avions mis en place aussi des réunions avec la police pour expliquer justement cet hôpital ouvert. Et nous avions aussi la chance que les Montaisans, peu à peu, ils étaient collaborants avec l'hôpital. Quand ils voyaient une personne en robe de chambre, ils nous appelaient. Où, vraiment, il y a eu toute une histoire de Malévo, de l'hôpital ouvert avec la ville de Monté, avec la police, qui a été vraiment très positif. Et moi, ça a toujours été ma fierté d'appartenir à ces institutions psychiatriques où nous étions justement hôpital ouvert, pas de porte fermée. Parfois, le fait qu'un patient en état de crise fugue, l'effet de fuguer, de se décharger de cette angoisse, parfois il revenait et il était beaucoup plus calme et on pouvait continuer la prise en soin. Dans l'institution, nous avions mis en place avec les soignants un protocole de fugue, c'est-à-dire quand quelqu'un était signalé en fugue, il y avait d'abord toute une recherche dans l'hôpital qui était faite par nous. Nous allions aussi, parfois, la nuit, on était appelés pour aller rechercher le patient, soit en ville, soit au bord du Rhône, mais toujours en collaboration étroite avec la police. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cet hôpital ouvert. Et je pense que c'était quelque chose de très humain. Je me rappelle que quand on avait des réunions au niveau suisse romande et autres avec d'autres collègues, ils disaient « ce n'est pas possible, vous devez mettre beaucoup plus de médicaments aux patients pour qu'ils ne fuguent pas. » Et les statistiques démontraient le contraire. que nous ne mettions pas plus de médicaments quand il y avait des statistiques au niveau suisse aux patients. Au contraire, le fait que vous avez la possibilité, même que vous êtes en crise, de prendre la porte et partir, est complètement différent de vous trouver dans un endroit, une chambre fermée, qui est très angoissant, une chambre fermée. Plus si vous êtes en crise, très angoissant.
Oui, on peut bien l'imaginer. J'aimerais qu'on revienne à vos journées de travail. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se passait une journée de travail pour vous au moment où vous êtes arrivé à Malevo ou bien les premières années?
Alors, la journée de travail commence à 6 heures et nous avions le rapport de la nuit. Et puis, en général, pour 30-35 patients, on était deux. Et on commençait à lever les patients, à les doucher ou à faire la toilette, et jusqu'à ce qu'il arrivait les autres à 7 heures. Après, les autres soignants qui arrivaient devaient continuer le lever. Après le lever, il y avait le petit déjeuner, la prise de médicaments. Et après, il y avait les personnes qui étaient encore en crise qui devaient aller en ergothérapie pavillonnaire. Et puis les autres devait aller soit dans les unités de ergo à l'extérieur, soit accompagné, soit seul. Et puis, il y avait aussi la colle. Il y avait aussi un menuisier qui faisait des travaux sur le bois. Donc, chaque personne avait dans son plan de soins un lieu où il devait passer la journée. Et normalement, toutes les personnes qui restaient au pavillon, ça s'appelait des pavillons à l'époque, devaient tous être occupés, soit avec un infirmier qui faisait des activités avec lui, soit on allait en promenade, soit il y avait le bain plus tard, soit ils avaient rendez-vous avec le médecin.
Comment ont évolué les soins au fil du temps?
Alors, les soins ont évolué dans une prise en soins beaucoup plus personnelle. Donc, chaque patient était unique. Et un des soins aussi qui a beaucoup marqué, c'est la reconnaissance des familles. Je me rappelle qu'au début, dans les années 70, on pensait que patient. Et peu à peu, la famille a pris toute son importance. En fait, le patient vivait avec son entourage. Et peu à peu, cette famille, on l'a considérée et on l'a écoutée. Et on faisait avec. Ensuite, dans les soins, ce qui a beaucoup évolué, quand il y a eu la prise en soins beaucoup plus individuelle, c'est la décentralisation du soin. C'est-à-dire que d'un lieu de vie à un lieu de crise, il a fallu créer à l'extérieur des besoins, des ambulatoires, des centres de jour. Il a fallu collaborer avec les maisons qui prenaient en hébergement les patients qui ne pouvaient pas retourner à la maison. Il y a eu toute cette délocalisation où on s'occupait de la crise, mais très rapidement, après, le patient retournait dans son milieu, soit à la maison, soit en institution, soit par un suivi. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé à partir des années, je dirais plus ou moins 80, qui a énormément changé. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Parce que plus vous êtes hospitalisé longtemps, plus il est difficile de reprendre le travail, de reprendre votre vie quotidienne. Et là, cet lieu de vie et lieu de crise, ça a été un grand, grand, grand changement.
Oui, et en vous écoutant, c'est la première fois que j'entends le rôle de la famille. C'est très important, la famille, dans une unité en soins psychiatriques, dans un hôpital en soins psychiatriques.
Énorme. Énorme. Et là, je pense qu'en travaillant avec les médecins, avec les infirmiers, peu à peu, cette notion de famille a pris énormément d'importance et elles étaient enfin reconnues parce qu'il ne faut pas oublier qu'un patient qui souffre, la famille souffre aussi. Et cette reconnaissance de la famille a été vraiment capitale. Et par la suite, on a mis en place aussi, dans certaines pathologies, du soutien à certaines familles qui vivaient avec des pathologies très spécifiques, comme la schizophrénie, comme la manie. Maintenant, ça se développe de plus en plus, d'ailleurs. La prise en soin aussi des familles, de reconnaître leurs souffrances aussi.
Est-ce que vous avez constaté, au cours de votre carrière, une évolution des pathologies ?
Alors, je pense que le fait qu'il y ait des suivis avant que la crise devienne vraiment très importante, si on peut hospitaliser le plus vite possible ou que le patient arrête son traitement, vu qu'il y a un suivi ambulatoire, on arrive quand même à aller rapidement intervenir. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un changement de société énorme, Et de ce fait, tout change à l'extérieur, hein, tout change. Le fait de ces nouvelles technologies, le fait de ce côté rural. Nous, on a la chance en Valais qu'on a encore beaucoup de villages, hein, où très vite, s'il y a quelque chose qui interpelle, on appelle soit la police, soit on appelle la famille. Donc, on peut intervenir assez rapidement. Mais je pense que le fait qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une détection plus rapide, c'est beaucoup plus facile à enrayer la crise. Et puis, la venue aussi des médicaments qu'on a eus, hein, dans les neuroleptiques, des médicaments beaucoup plus perfectionnés. Et mais c'est surtout une prise en charge beaucoup plus rapide. Et puis, dans le système, qu'il y ait des unités mobiles, je trouve ça extraordinaire. Qu'on puisse intervenir rapidement sur les lieux, je trouve ça très bien, très très bien. Qu'il y ait aussi de l'ambulatoire, développer les ambulatoires, les centres de jour pour éviter. Parce qu'une hospitalisation, c'est toujours quelque chose qui marque autant le patient que les familles. Et si on peut éviter d'aller jusqu'à l'hospitalisation, pour moi, c'est un côté très positif.
On s'attache aux patients, j'imagine, en tant qu'infirmière. Oui. Et surtout avec les patients peut-être plus âgés. C'est quelque chose que vous avez vécu?
Oui. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut avoir une attitude empathique et une distance. Alors, il est clair qu'on apprend, mais parfois, on est touché. Parce que, premièrement, nous sommes humains. S'il y a une mort subite, s'il y a des familles qui souffrent ou autres, on est touché. J'ai vécu 4 suicides chez les infirmiers. 4. Alors, je me suis dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'institution. Et de par mes fonctions que j'ai pu avoir dans ma carrière, j'ai été très sensibilisée de qu'est-ce qu'on peut donner comme soutien dans des moments qui sont très durs. Il y a la violence aussi, la violence physique, la violence psychique. Et là, avec tous mes collègues, nous avons beaucoup travaillé dans la formation. La formation et la supervision. C'est-à-dire de donner des moyens aux personnes qui vivent des situations professionnelles dures de pouvoir les travailler et de pouvoir continuer. Parce qu'il y a aussi un turnover, hein. La psychiatrie, c'est dur. Il y a des personnes qui, à un moment donné, sont fatiguées, elles changent. Et le tout dans ce métier, c'est de pouvoir garder le plus longtemps possible du personnel qui aiment leur travail, qui ont du plaisir à travailler et qui se sentent en sécurité et qui peuvent être les mentors pour les nouveaux qui arrivent. Comment on apprend son métier? Moi, j'ai appris mon métier avec les anciens. Je regardais comment ils faisaient. Et si on a un turnover qui est trop rapide, c'est le gros problème des jeunes qui arrivent parce qu'ils ont besoin des modèles autour d'eux pour pouvoir apprendre. À l'époque, il y avait l'école d'infirmière en psychiatrie, mais maintenant, c'est une spécialisation qui s'apprend après avoir fait infirmière généraliste. Donc, d'où l'importance de donner des moyens de formation. Pour moi, la formation a été quelque chose qui a mené tout au long de ma carrière pour pouvoir donner au personnel de la formation et de la supervision, de pouvoir discuter de certaines situations, ne pas aller à la maison. Il y a des choses qui sont lourdes et vous ne pouvez pas en parler, ni à la maison, ni ailleurs. Il faut le travailler. Travailler où ? Ben, le travailler sur le lieu du travail avec des moyens. Il y a de la supervision, il y a de la formation. Il y avait aussi l'hypnose qu'on faisait aussi. Moi, je me rappelle d'avoir vécu une situation quand j'étais de piqué, qui était lourde, lourde. Et j'avais pu l'occasion de pouvoir faire justement une hypnose pour pouvoir essayer de dédramatiser un peu la situation. Et pour moi, la formation, c'était pour tous les intervenants. Parce qu'il y a les infirmiers, les médecins, mais il y a toute l'équipe pluridisciplinaire. Je me rappelle qu'une dame de ménage m'avait dit « Mais je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu le monsieur qui s'était suicidé. » Donc, l'importance de donner du soutien à toute cette équipe pluridisciplinaire, de pouvoir leur donner des outils. Il y avait aussi la dame qui était à la réception, qui voyait des admissions qui étaient violentes. Il y avait la dame de la cafétéria. Il y avait tout le personnel autour, le jardinier aussi, de se dire « mais quels sont vos besoins ?» et de pouvoir mettre en place justement du soutien pour tous les professionnels. Alors, le professionnel soignant direct, mais il y a tous les autres professionnels autour dans cette organisation.
Oui, c'est très intéressant de vous entendre effectivement sur cette organisation qui ne concerne pas seulement le personnel soignant, mais tout Malevo en fait.
Enfin, tous les intervenants. Moi, je me rappelle qu'une fois, une dame nous avait appelé de la ville et puis elle était assez touchée et nous avions décidé en direction de se dire, écoutez, on va la remercier. Alors, il y a les intervenants de l'hôpital, de tout le système. Je parle d'hôpital, mais il y a aussi tout le système du département, hein, toutes les autres structures. Et puis, cette dame avait été très touchée qu'on avait pris du temps pour aller lui dire merci, qu'elle nous avait appelé, puis qu'elle avait vécu une situation qui était un peu lourde pour elle qui habitait la ville. Même les policiers ou les pompiers, quand ils vont dans des interventions, ils ont du soutien après. Du soutien de crise et tout après. Donc, il était important de se donner aussi du soutien et des moyens dans le système des soins. Dans un organigramme de soins, par exemple, une chose qui était importante pour moi, il y a une fonction qui, pour moi, je l'ai vécue vu que j'ai été responsable d'une unité, mais par la suite, je me disais, il y a une fonction clé qui est la fonction d'infirmière chef d'unité. L'infirmière chef d'unité, elle a toute une unité, elle a tous les patients, toute la famille, tout son personnel. Elle a la hiérarchie en dessous d'elle qui lui demande justement des... À l'IQUS, elle a un cahier des charges, elle doit suivre ce cahier des charges, elle doit faire des évaluations du personnel. Elle a une fonction clé dans l'organigramme des soins. Puis c'est la seule qui a encore tous les patients, avec tout ce que ça implique comme responsabilité. Et j'avais mis en place des supervisions d'équipe, d'IQUS, l'infirmière chef d'unité. Pour moi, c'était important qu'elles soient dans leur rôle soutenu et de les mettre ensemble, parce que chacun est dans son unité avec ses problèmes et autres, et de les mettre ensemble pour pouvoir, dans une supervision, il y a une personne qui peut dire « Ah, mais moi, j'ai déjà vécu ça, je peux te donner ben voilà, la solution que j'avais trouvée, ça. » Et puis, il y a comme ça une certaine collaboration beaucoup plus intense après entre les unités. Elles ne sont pas hermétiques, fermées dans chaque unité, le Laurier, la Forêt, etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment important parce que je l'avais vécu. Je me rappelle que quand j'avais été infirmière chef d'unité, on m'avait demandé d'accueillir un patient qui était maniaque. En l'occurrence, j'étais à la Forêt et j'avais deux dortoirs. Et je disais, c'est pas possible de mettre un patient comme ça désorganisé dans un dortoir, il n'y a plus personne qui va pouvoir dormir. Et j'avais dit, mais est-ce que c'est possible, par exemple, de le mettre dans une autre unité où il y a des chambres individuelles? Et je me rappelle, et ça c'est une petite anecdote, qu'aujourd'hui j'en ris, et puis ma collègue de travail aussi, que la responsable de l'autre unité m'avait une fois dit, mais écoute, tu veux que je t'apporte une boîte d'allopéridol parce que tu n'es pas capable d'accueillir un patient. Et le fait d'avoir été mis ensemble pour parler de nos difficultés, puis que je lui avais dit que ben, dans mon unité, il y avait un dortoir et je n'avais pas que des chambres individuelles, ça avait... Ah, ben, je ne m'étais pas imaginé ça. Le fait d'être ensemble et de pouvoir partager des soucis font qu'on comprend mieux l'autre. Et ça me vient aussi à un autre exemple qui m'avait aussi été important pour moi. Dans l'institution, on avait dans la direction la possibilité de mettre en place des formations internes. Et je m'étais rendu compte que, par exemple, un infirmier appelait la réception et disait « c'est pas possible, il faut attendre 5-10 minutes, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis j'ai dit « mais on ne connaît pas le travail de l'autre. » Et on avait mis en place « qui veut connaître comment travaille l'autre ?» Donc, les gens pouvaient s'inscrire. La réceptionniste a pu passer, par exemple, une demi-journée dans une unité parce qu'elle comprenait enfin pourquoi, des fois, on ne répondait pas tout de suite au téléphone. Ou vice-versa, pourquoi l'infirmier, quand elle appelait la réception, elle ne répondait pas tout de suite au téléphone. C'est un petit exemple, mais qui montrait qu'on ne se connaissait pas dans la fonction de l'autre. Et ça, ça avait beaucoup amélioré la collaboration et l'ambiance de l'institution.
Oui, on vous entend bien, effectivement. C'est extraordinaire de pouvoir collaborer comme ça. Vous avez évoqué la peur, parce qu'on est quand même dans un hôpital psychiatrique, la dangerosité. Est-ce que vous avez eu des moments de peur ou de mise en danger? Vous êtes senti mise en danger? Et à contrario, quels ont été les moments de détente que vous avez vécu à l'hôpital?
Alors moi, je disais toujours, je me promène dans le parc, j'ai pas peur la nuit. Parce que les personnes qui sont hospitalisées, on sait qu'ils souffrent et qu'ils ont des problèmes. A contrario, de me promener dans une ville seule la nuit. Il est vrai que peur, non, j'ai pas eu peur. Mais dans l'institution, nous avions mis en place une collaboration entre unités. Si un patient était dangereux, il y avait un appel. Et puis, nous avions demandé que dans les plannings de l'unité, il y ait toujours par tranche horaire deux hommes. Alors, j'ai pu remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, que le patient n'était pas collaborant parce que soit il était délirant, soit il n'était pas dans la réalité, le fait de venir à plusieurs autour de lui et puis d'essayer de parler, de le persuader d'accepter une médication, souvent le fait de voir les personnes autour de lui, au bout d'un moment, il disait « bon, je suis d'accord ». Parfois, non. Parfois, on n'arrive pas à rentrer en contact. Hein. Alors, c'est toujours des moments qui ne sont pas très agréables. Moi, j'ai vécu très rarement ces moments-là, très rarement. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est important de donner les moyens de comment, au niveau de la formation déjà, que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas y aller seul. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans les unités, la sœur, elle me disait « écoutez, vous ne devez jamais tourner le dos à un patient ». C'est vrai que la formation nous donne les moyens aussi de sentir l'autre. Quand vous dites bonjour à un patient, la manière dont il vous répond, vous voyez s'il est dans la réalité, s'il est bien, s'il est angoissé, s'il n'est pas angoissé, s'il est délirant et tout. Et de se donner les moyens pour répondre à ça. Mais peur, je ne crois pas que j'ai eu peur, vraiment peur dans ma vie professionnelle. Alors c'est vrai que, par contre, oui, j'ai eu des situations qui m'ont touchée, où c'était dur. J'ai pu aller en supervision, mais il y avait cette émotion qui m'est restée pendant plusieurs temps. C'est vrai, des émotions d'impuissance, parce que ben, si vous avez un suicide ou autre, vous êtes marqué en tant qu'être humain. Mais on doit apprendre justement à gérer et continuer. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie privée vraiment saine. Dans l'hôpital, à un moment donné, on avait donné la possibilité de faire du sport. Et il y avait le tennis, il y avait la gym, et les soignants pouvaient participer. Et puis, il y avait aussi une chose qui était importante. Nous avions mis en place, dans la direction des soins, la possibilité, une fois par année, que chaque unité pouvait partir 4 heures. Les autres unités venaient en renfort pour travailler dans l'unité, et elles pouvaient partir 4 heures de faire du sport et d'aller se promener.
Et les petits moments de bonheur à Malévo ?
Oh, il y en a eu beaucoup. Oui, j'ai beaucoup aimé ma vie professionnelle, énormément. J'ai eu la chance, de par mes fonctions, de pouvoir arriver à des postes de décision aussi. Ça, c'était important. Et pour moi, c'était important de lier et relier les gens, les professionnels. Parce qu'au milieu, il y a le patient. Et si, au niveau professionnel, vous arrivez à donner les moyens pour que le personnel fonctionne, alors soit au niveau des ressources humaines, soit au niveau de la formation, et de relier les professionnels, les médecins avec les infirmiers, les infirmiers avec l'équipe pluridisciplinaire, avec le jardin, de relier. Et aussi de relier aussi avec les extérieurs, parce qu'avec toutes les collaborations qu'on a avec les structures extérieures, l'importance de mettre en place des séances de réunion, de relier, parce que le patient, dans le canton du Valais, roman surtout, je ne parlerai pas du Haut-Valais parce qu'il est assez autonome par rapport à ça, l'importance que les professionnels se connaissent et puissent dialoguer. Pour moi, ça a toujours été un challenge et très, très important pour moi, de relier les professionnels pour que le patient autour puisse circuler dans tout ce système mis en place dans le Valais. Les moments de bonheur, ben, il y a la construction pour la personne âgée, je trouvais ça génial que la personne âgée n'était plus le parent pauvre. Et puis, d'avoir eu une équipe avec qui j'ai travaillé, que j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec ces équipes. Alors, bien sûr que c'est dur, mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Nous étions le premier hôpital valaisan où il y avait une direction des soins. Grâce à Dr Ebele, on a pu développer une reconnaissance du soin au travers de la formation, une formation dans les écoles infirmières de cadre. On était dans le canton de Vaud et ça a été vraiment innovateur. très innovateur du docteur Rebele et ce qui a permis une reconnaissance justement de la hiérarchie infirmière. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de plaisir, beaucoup, vraiment beaucoup de plaisir. Quand j'étais à la retraite, que j'ai entendu que Malévo en voulait enlever Malévo, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce qu'il y a un savoir-faire dans l'hôpital de Malévo, de par sa structure qui surplombe la ville, de par tout un savoir-faire qui a évolué durant presque 100 ans, de mettre une unité de crise dans un hôpital physique, je me fais beaucoup de soucis. Parce que je le vois, par exemple ici à l'étranger, les unités, elles sont fermées, elles sont reconnues très vite, ça c'est l'unité des malades mentaux, et je me dis que l'hôpital de Malévo, de par son savoir-faire, de par le travail qui a été fait avec la ville, je trouverais fort dommage qu'on ferme des unités de crise. Alors que les unités de crise vont diminuer parce qu'on augmente les structures extérieures, tout à fait d'accord, mais ce savoir-faire qu'il y a, je trouverais dommage de le... Je ne pense pas aujourd'hui qu'on pourrait le transférer dans des hôpitaux physiques. Par contre, de revoir différemment les besoins, oui, mais c'est un lieu qui est, pour moi, qui a toute une histoire, et de cette histoire, on peut en garder des grands bénéfices pour l'avenir, tout en acceptant l'évolution. Quand j'ai essayé de revoir un peu ces 41 ans, ce qui a été un peu difficile à un moment donné, c'était l'appartenance. Parce que de l'hôpital de Malévo aux institutions psychiatriques du Valais-Roman, au centre hospitalier du centre, au centre hospitalier du Valais-Roman, au réseau santé Valais, ça a été compliqué ces appartenances. Parce que vous savez que l'importance de dire « j'appartiens, mais qui est mon supérieur ?» Ça, ça a été un peu difficile. Ça a été un moment difficile, toutes ces appartenances, les organigrammes changés et tout. Pour aujourd'hui, alors je ne suis pas de près, hein, mais le dernier appartenance que j'ai vu avant de partir, c'était département de la psychiatrie. Donc ça a été un peu, je dirais, ça a pris beaucoup d'énergie. Mais j'ai fait dans mes formations le concept du changement, parce qu'on est vraiment dans un monde de changement. Et puis, on sait qu'avec le changement, il faut du temps. Il est important que ça évolue. De toute façon, on ne peut pas résister. Mais de ne pas oublier, dans tous ces changements, malgré qu'il y aura encore beaucoup de changements, qu'on est là pour le patient qui souffre. Et qu'il est important de se donner les moyens pour vraiment continuer dans ce sens-là, pas perdre cette notion de humain. Ça, pour moi, c'est important.